Chapitre 32. Rita est assise à la table de la cuisine. Un bol de verre où flottent les glaçons est posé devant elle. Des radis, transformés en fleurs, roses ou tulipes, y dansent. Sur la planche à découper, devant elle, elle en cisèle d'autres, avec un couteau de cuisine. Ses grandes mains agiles, indifférentes. Le reste de son corps ne bouge pas, non plus que son visage. C'est comme si elle le faisait en dormant, ce manège du couteau. Sur la surface émaillée blanche, il y a un tas de radis lavés mais non coupés. De petits cœurs aztèques. Elle ne prend pas la peine de lever les yeux à mon entrée. Elle se contente de dire « Vous avez tout, hein ?» Tandis que je sors les paquets pour qu'elle les inspecte. Je demande « Pourrais-je avoir une allumette ?» Étonnant à quel point elle me fait me sentir comme un petit enfant qui mendie, juste à cause de son air renfrogné, son flegme, à quel point importune et géniarde. « Allumettes, » dit-elle. « Pourquoi faire des allumettes ?» J'explique. Elle a dit que je pouvais en avoir une, en me gardant d'avouer la cigarette. « Qui a dit ?» Elle continue à s'occuper des radis, sans changer sa cadence. Aucune raison pour vous d'avoir des allumettes. Vous feriez brûler la maison. Vous pouvez aller lui demander si vous voulez. Elle est dehors, sur la pelouse. Rita lève les yeux au plafond, comme si elle y consultait en silence quelque divinité. Puis elle soupire, se lève lourdement et s'essuie ostensiblement les mains à son tablier, pour me montrer à quel point je dérange. Elle va au placard au-dessus de l'évier, en prenant son temps. Cherche son trousseau de clés dans sa poche, déverrouille la porte du placard. « Je les garde ici, l'été, » dit-elle comme pour elle-même. « Manquerait plus qu'un incendie par ce temps. » Je me rappelle qu'en avril, c'est Cora qui allume les feux dans le salon et la salle à manger, quand il fait plus frais. Ce sont des allumettes en bois, dans une boîte en carton à couvercle coulissant, du modèle que je convoitais pour en faire des tiroirs de poupées. Elle ouvre la boîte, en scrute le contenu, comme pour décider laquelle elle veut me donner. Elle marmonne. Ça la regarde. Pas moyen de rien lui dire. Elle plonge sa grande main dans la boîte, choisit une allumette, me la tend. Mais allez pas mettre le feu à rien, dit-elle. Gare au rideau dans votre chambre. Fait déjà trop chaud comme ça. Je ne mettrai pas le feu. Ce n'est pas pour ça que j'en ai besoin. Elle ne daigne pas me demander pourquoi faire alors. Mangez-la, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Elle a dit que vous pouviez en avoir une, je vous en donne une. Un point, c'est tout. Elle se détourne de moi et se rassied à la table. Puis elle saisit un glaçon dans le bol et se le fourre dans la bouche. C'est un geste inhabituel de sa part. Je ne l'ai jamais vue grignoter pendant qu'elle travaille. « Vous pouvez en avoir un aussi, » dit-elle. « Si c'est pas malheureux de vous faire vous coller ces têtes d'oreiller sur la tête par un temps pareil. » Je suis étonnée. D'ordinaire, elle ne m'offre jamais rien. Peut-être sent-elle que si mon statut s'est élevé au point de me voir accorder une allumette, elle peut se permettre elle aussi un petit geste. Suis-je devenue subitement de celle qu'il convient de se concilier ? « Merci. » Je transfère soigneusement l'allumette dans ma manche fermée par une glissière, là où j'ai mis la cigarette, pour qu'elle ne se mouille pas. Et je prends un glaçon. Je lui dis « Ces radis sont bien jolis. » En échange du cadeau qu'elle m'a offert, de son plein gré. « J'aime faire les choses comme il faut, voilà tout, » dit-elle, redevenue grincheuse. « Autrement, ça n'a pas de sens. » Je parcours le corridor. Grimpe l'escalier, en hâte. Dans le miroir incurvé du vestibule, je passe comme une ombre, forme rouge, au bord de mon propre champ de vision, filet de fumée rouge. C'est bien la fumée que j'ai en tête. Je la sens déjà dans ma bouche, aspirée au fond des poumons, à me remplir d'un long soupir de cannelle, généreux et pollué. Puis la galopade au moment où la nicotine pénètre dans le sang. Après tout ce temps, cela pourrait me rendre malade. Cela ne m'étonnerait pas. mais même cette pensée est la bienvenue. J'avance le long du corridor. Où devrais-je le faire? Dans la salle de bain, en faisant couler l'eau pour purifier l'air? Dans la chambre, à bouffer asthmatique soufflée par la fenêtre? Qui va me prendre sur le fait? Qui sait? Même tout en me grisant ainsi du futur, en goûtant cette attente dans ma bouche, je pense à quelque chose d'autre. Je n'ai pas besoin de fumer cette cigarette. Je pourrais la déchiqueter et la faire disparaître dans les toilettes. Ou je pourrais la manger. C'est un moyen de se défoncer. Cela peut marcher aussi, un petit bout à la fois. Économiser le reste. Ainsi, je pourrais conserver l'allumette. Je pourrais faire un petit trou dans le matelas, les glisser avec précaution. Un objet aussi menu ne serait jamais remarqué. Il serait là, la nuit, sous moi, quand je suis au lit, à dormir dessus. Je pourrais incendier la maison. Cette idée est si magnifique qu'elle me fait frissonner. Une évasion, rapide, de justesse. Je suis étendue sur mon lit. Je feins de sommeiller. Le commandant, hier soir, les doigts réunis, à me contempler tandis que je m'enduisais les mains de lotion huileuse. Bizarre. J'ai pensé à lui demander une cigarette, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je suis assez avertie pour ne pas trop demander d'un coup. Je ne veux pas qu'il pense que je l'utilise, et je ne veux pas non plus l'interrompre. Hier soir, il a bu un verre, un scotch à l'eau. Il a pris l'habitude de boire en ma présence, soi-disant pour se détendre à la fin de la journée. Je dois en déduire qu'il est sous pression. Il ne m'offre jamais à boire, pourtant. Et je ne le demande pas. Nous savons l'un et l'autre à quoi sert mon corps. Quand je l'embrasse, pour lui souhaiter bonne nuit, son haleine sent l'alcool, et je l'inhale comme de la fumée. Je confesse que j'y prends plaisir, à ce coup de langue qui fleure la mauvaise vie. Quelquefois, après quelques verres, il devient stupide et triche au Scrabble. Il m'encourage à faire de même. Nous prenons des lettres supplémentaires et fabriquons des mots qui n'existent pas. Comme truche et cripe. Tout en riant sottement. Parfois, il branche sa radio à ondes courtes et me régale d'une ou deux minutes de Radio America Libre pour me montrer qu'il en est capable. Puis il l'éteint. Maudit Cubain, dit-il. Toutes ces obscénités sur les pouponnières pour tous. Quelquefois, après les parties, il s'assied par terre à côté de ma chaise et me tient la main. Sa tête se trouve un peu plus bas que la mienne, si bien que lorsqu'il me regarde, cela lui donne l'air juvénile. Cela doit l'amuser, cette fausse soumission. « C'est un grand ponte, » dit de Glenn. « Il est tout en haut, vraiment au sommet. » À ces moments-là, c'est difficile à imaginer. Parfois, j'essaie de me mettre à sa place. C'est une tactique, pour deviner à l'avance comment il peut être manipulé dans son comportement à mon égard. Il m'est difficile de croire que j'ai un pouvoir sur lui, d'une sorte ou d'une autre. Mais c'est pourtant le cas, même si ce pouvoir est d'un ordre équivoque. De temps à autre, je crois me voir, quoique confusément, tel qu'il me voit peut-être. Il y a des choses qu'il désire me prouver, des cadeaux qu'il désire m'offrir, des services qu'il veut rendre, des tendresses qu'il veut inspirer. Il désire, c'est certain, surtout après quelques verres. Parfois, ses propos prennent un tour plaintif, d'autres fois philosophique, où il tente d'expliquer les choses, de se justifier, comme hier soir. Le problème ne se posait pas uniquement aux femmes. Le problème majeur concernait les hommes. Il ne leur restait plus rien. Rien ? Mais ils avaient... Ils n'avaient plus rien à faire, dit-il. Je réponds un peu méchamment. Ils pouvaient faire de l'argent. En ce moment, je n'ai pas peur de lui. C'est difficile d'avoir peur d'un homme qui est assis à vous regarder vous mettre de la crème sur les mains. Cette absence de peur est dangereuse. Cela ne suffit pas. C'est trop abstrait. Je veux dire qu'il n'avait rien à faire avec les femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et tous les pornos salons, il y en avait partout. Il y en avait même qui étaient motorisés. Je ne parle pas de sexe. C'était un des éléments du problème. Les rapports sexuels étaient trop faciles. N'importe qui pouvait simplement les acheter. Il n'y avait rien pour quoi travailler, rien pour quoi se battre. Nous avons les statistiques de cette époque. Savez-vous de quoi les hommes se plaignaient le plus ? Incapacité d'avoir des sentiments. Ils étaient dégoûtés des relations sexuelles. Ils étaient dégoûtés du mariage. Je demande, est-ce qu'ils ont des sentiments maintenant ? Oui, dit-il en me regardant. Ils ont des sentiments. Il se lève, fait le tour du bureau, s'approche du fauteuil où je suis assise. Il me pose les mains sur les épaules, par derrière. Je ne peux pas le voir. J'aimerais savoir ce que vous pensez. Prononce sa voix derrière moi. Je dis d'un ton léger. Je ne pense pas tellement. Ce qu'il désire, c'est une intimité. Mais je ne peux pas lui donner cela. Cela ne sert pas à grand-chose que je pense. N'est-ce pas ? Ce que je pense n'a pas d'importance. C'est d'ailleurs la seule raison qui lui permette de me raconter des choses. « Voyons, » dit-il, en appuyant ses mains un peu plus. « Votre opinion m'intéresse. Vous êtes plutôt intelligente. Vous devez bien avoir une opinion. Sur quoi ? Sur ce que nous avons fait. La manière dont les choses ont tourné. Je me tiens parfaitement immobile. J'essaie de me vider l'esprit. Je pense au ciel, la nuit, quand il n'y a pas de lune. Je dis « Je n'ai pas d'opinion. » Il soupire, desserre les mains, mais les laisse sur mes épaules. Il sait fort bien ce que je pense. « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. » Voilà ce qu'il dit. « Nous pensions que nous pouvions faire mieux. » Je répète. « Mieux ?» d'une petite voix. « Comment peut-il penser que ceci est mieux ?»« Mieux ne veut jamais dire mieux pour tout le monde, » dit-il. « Cela veut toujours dire pire pour certains. » Je suis couchée à plat, l'air moite au-dessus de moi est comme un couvercle. Comme de la terre, je voudrais qu'il pleuve. Mieux encore, un orage, nuages noirs, éclairs, coups de tonnerre assourdissants. L'électricité pourrait sauter. Je pourrais alors descendre à la cuisine, dire que j'ai peur, m'asseoir avec Cora et Rita autour de la table de la cuisine. Elles admettraient ma peur, parce que, cette peur-là, elles la partagent, elles me laisseraient y participer. Il y aurait des bougies allumées. Nous regarderions nos visages apparaître et disparaître au gré de leurs flammes vacillantes, des éclairs blancs de lumière déchiquetée à l'extérieur des fenêtres. « Ô Seigneur !» dirait Cora. « Ô Seigneur, protégez-nous !» L'air serait plus pur après, et plus léger. Je lève les yeux au plafond, vers le cercle de fleurs de plâtre. « Dessinez un cercle ? Entrez-y, il vous protégera !» Au centre, il y avait le lustre, et du lustre pendait un lambeau tordu de drap. C'est là qu'elle se balançait, légère, comme un pendule. Comme on pouvait se balancer enfant, suspendu par les mains à une branche d'arbre. Elle était en sécurité alors, complètement protégée, au moment où Cora a ouvert la porte. Quelquefois, je crois qu'elle est encore ici, avec moi. Je me sens enterrée.